L'appel à la vérité, c'est une pétition qui a été lancée il y a un peu plus d'une semaine en France pour que la vérité soit faite dans l'Église catholique à propos des affaires de pédophilie, signée par de nombreuses personnalités, cette pétition. Mais c'est un texte qui met aussi en cause les médias qui, je cite, « traitent ces affaires avec partialité, méconnaissance ou délectation. Nous sommes fatigués et meurtris de cet emballement médiatique. » Bonjour, Cause.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre ce matin en duplex de Paris. Vous êtes un des auteurs de cet appel à la vérité. Combien de signatures maintenant ?
Alors aujourd'hui, en tout cas hier soir, nous étions à plus de 29 000 signatures.
Ouais. Alors une précision, Cause, c'est le nom sous lequel vous tenez un blog et vous préférez que votre vrai nom ne soit pas donné à l'antenne pour des raisons professionnelles. Cela dit, nous connaissons votre nom, vous n'êtes donc pas pour nous un interlocuteur anonyme. Alors la lettre commence par évoquer votre douleur extrême à propos des affaires de pédophilie impliquant des prêtres. Est-ce que la gravité de ces affaires et les silences de l'Église, souvent, ne justifient pas quand même ce que vous appelez un emballement médiatique ?
Elles peuvent techniquement l'expliquer, le justifier, non, parce que si les journalistes réfèrent à des hauts standards éthiques, dans ce cas-là, c'est à eux qu'il revient de mettre les faits en contexte et de ne pas se laisser aller à l'emballement que peut ressentir n'importe quel citoyen. C'est le travail que l'on attend de leur part, de faire une enquête et de mettre en contexte les faits.
Mais c'est quoi le contexte ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier au fond qu'il faudrait mettre en évidence ? J'imagine vous pensez au contexte de l'Église, de la condition des prêtres ?
Il y a plusieurs choses qui nous ont frappés et choqués dans le traitement médiatique de ces affaires. D'une part, on rappelle quand même très peu le fait que ces faits sont anciens. Hier encore, c'est un exemple, je vois une dépêche de l'AFP titrée « Pédophilie, deux cas en Suède ». On sait la force des titres, souvent les gens s'arrêtent au titre, on clique sur le lien, les faits ont eu lieu dans les années 40. Ça n'enlève rien évidemment à la gravité des faits et à la souffrance des victimes, mais rappelons quand même que ces faits-là ont eu lieu il y a près de 70 ans, d'autres sont plus récents, mais ils ont généralement eu lieu il y a 20 ou 30 ans. Depuis, l'Église a évolué, on recense encore évidemment malheureusement des cas, mais ils sont beaucoup moins nombreux.
Oui.
Dans le contexte également, vous avez le rôle exact de Benoît XVI. On assiste là, véritablement, moi j'ai vraiment l'impression qu'on a une chasse au scalp de Benoît XVI. Certains, et en particulier le New York Times, sont à la remorque d'un cabinet d'avocats privé dont le rêve secret est d'interroger un jour Benoît XVI. Alors on essaye à toute force de l'impliquer en oubliant que c'est le pape qui a fait le plus pour dénoncer les actes de pédophilie et qui a été on ne peut plus clair sur ce sujet.
Pourtant,
ce sont ces éléments-là que l'on voudrait voir.
Mais pourtant, le New York Times avait fait une enquête montrant, je cite ce que j'ai compris, en tout cas de ce que j'ai lu, que justement Benoît XVI, avant d'être pape, avait couvert un prêtre pédophile.
Je note que c'est effectivement ce que vous retenez, comme beaucoup de personnes retiennent, mais s'il s'agit donc de l'affaire Murphy, ça n'est effectivement pas le cas. Le cardinal Ratzinger à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a été saisi en 1996. Les faits qui concernent le père Murphy ont eu lieu 20 ans auparavant, en 1976, et ils ont été dénoncés aux autorités civiles américaines. La police a enquêté, l'a blanchi un peu rapidement, même plus qu'un peu rapidement, l'a blanchi à tort. Et 20 ans après, la question qui s'est posée n'était pas le sanctionner ou non pour les actes de pédophilie, puisque la justice avait déjà été saisie. La question était de savoir si on le défroquait, en termes canoniques, si on le réduisait à l'état laïque ou pas. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que le procès n'est pas allé à son terme, simplement parce que le père Murphy, qui vivait déjà en réclusion, c'est-à-dire non pas en détention, mais à l'écart, d'une part, il n'y avait pas eu de nouveaux faits pendant 20 ans, et surtout, il était mourant. De fait, il est mort 4 mois plus tard. Or, un procès, ça dure des mois, c'est long à mettre en place, ça demande de recevoir un certain nombre de témoignages, et par conséquent, le procès a été ajouté. Journée, mais essentiellement en raison de l'état de santé du père Murphy. Donc en aucun cas, il n'y a eu le pape n'a couvert des faits de pédophilie dans cette affaire-là.
Ça méritait d'être précisé, en effet. Est-ce que, quand vous dites que les médias traitent ces affaires avec partialité et délectation, ça veut dire que vous pensez qu'il y a une malveillance à l'encontre de l'Église ?
Je ne pense pas que ce soit généralisé. Je pense que pour certains, ils sont comme nous des citoyens qui, ou des personnes qui vivent avec leur... Avec leur temps, l'Église n'est pas forcément dans l'air du temps, et donc il y a l'inclinaison personnelle qui amène à traiter les choses d'une certaine manière. Après, je pense qu'il y a aussi des journalistes qui effectivement ont une certaine délectation. Quand je vois la façon dont on révèle des cas de façon bien étalée dans le temps, où lorsqu'une affaire s'éteint, une nouvelle affaire naît, tout ça est savamment distillé. Et il faut pas oublier quand même que tout cela vient de Jeff Anderson, qui est un avocat américain, qui a quand même gagné des millions sur cette affaire et qui distribue tranquillement au New York Times, jour après jour, les éléments de mise en cause pour bien maximiser les faits.
Alors, est-ce que c'est un phénomène qui a trait spécifiquement à l'Église catholique, ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on peut généraliser à d'autres sujets, et en particulier à d'autres religions? C'est ce qu'on va voir maintenant. On a entendu tout à l'heure le buzz à propos du traitement des fondamentalistes musulmans dans une émission télévisée. L'islam dans nos médias, c'est le thème d'une conférence qui est donnée en ce moment même à Lausanne, à la Maison de la Communication. Et hier, nous avons appelé le conférencier. Il s'agit de Stéphane Lathion, docteur en études européennes et coordinateur du groupe de recherche sur l'islam en Suisse. Je lui ai demandé tout simplement quelle était l'idée principale qu'il développait ce matin.
Ce qui est surprenant malgré tout, c'est que la logique médiatique prend le dessus sur ce que devrait être le travail de journaliste, c'est plus d'information et puis d'analyse et de décryptage de l'actualité. Alors que souvent, quand on parle d'islam, on reste dans le superficiel, dans l'émotionnel, plutôt que d'essayer de déconstruire un petit peu et puis d'avoir un minimum d'analyse. Donc la logique médiatique de « il y a l'urgence, il faut essayer de choquer quelque part pour vendre », et puis des journalistes, il y a peu d'interlocuteurs musulmans qui sont là pour faire un peu donner des infos aux journalistes. Tout ça fait qu'on est parfois un peu brouillon et on privilégie l'émotionnel parce qu'on ne se donne pas les moyens ou les outils pour vraiment faire une analyse de la situation.
Alors qu'est-ce qu'on ne comprend pas, par exemple ?
Il y a une diversité de la présence musulmane en Suisse. On a donné la parole aux 3 ou 4 mêmes arabophones qui ne représentent personne, puisque 90% des musulmans qui sont en Suisse viennent ou sont originaires des Balkans ou de la Turquie. Donc là, il y aurait peut-être à faire un effort d'ouverture et de montrer cette diversité-là. Puisque la manière dont l'islam est vécu par les 90% de musulmans qui sont originaires des Balkans ou de Turquie n'a rien à voir avec l'image que le Suisse peut se faire de l'islam. Donc juste de mettre de la nuance, quelque part, c'est ça. Et là, c'est là où je vais être un peu provocateur vis-à-vis des journalistes. C'est souvent, il y a un manque de temps ou de compétences dans l'approche du sujet. Et là, on est, il n'y a rien de spécifique à l'islam.
Justement, quelle est la part, selon vous, du manque de compétences et la part, au fond, du choix? C'est-à-dire que si on s'en tient à des clichés, à des choses faciles à digérer pour les consommateurs de nos médias, évidemment, ça, on vendra plus ou bien on aura plus d'impact. Quelle est la part de ce choix ou la part de l'incompétence, selon vous?
Je préfère avoir le doute en me disant que la logique médiatique prend le dessus sur tout ça. Maintenant, il y a un exemple qui me revient, puisque c'était révélateur, c'était déjà le cas en 2003, c'est un article du Temps qui présentait le centre islamique de Lausanne, le mouvement des Harbaches, comme un courant important en Suisse romande, alors que pour beaucoup de musulmans, ils sont considérés comme une dérive sectaire. Donc là, on a un biais, on présente un mouvement comme quelque chose d'important et de représentatif de l'islam de Suisse, alors que ce n'est pas le cas du tout. Et quelque chose qui est repris le soir des votations du minaret, où la TSR est sur place, la communauté musulmane nous a bien accueillis à Lausanne aujourd'hui.
Alors là, c'est de la méconnaissance,
vraisemblablement. Oui, exactement, complètement, oui. Mais je me rappelle une émission de la TSR également, qui voulait faire un sujet sur le mois du Ramadan, parce qu'ils pensaient que c'était problématique. Donc ils nous interrogent, ils vont interroger les musulmans, puis quelque part, tout le monde, et du côté musulman et non musulman, leur dit que par rapport aux jeunes, il n'y a pas de problème en Suisse, il n'y a pas de revendication spécifique. À partir de là, on ne fait pas le reportage, puisque ce n'est pas intéressant. Il n'y a pas de problème. Alors qu'au contraire, on aurait pu prendre cet élément qui est essentiel dans le culte musulman pour montrer pourquoi il n'y a pas de revendication par rapport à ça. Non, à partir du moment où il n'y a pas de problème, on n'en parle pas.
Évidemment, un aspect aussi qui est très présent dans nos médias, c'est l'islamisme et, oui. et sa dimension violente. Oui. À ce sujet-là, qu'est-ce qui vous frappe dans le traitement par nos médias ?
Moi, là, je me mettrai aussi du côté journaliste cette fois. La critique des musulmans, c'est de dire « mais on diabolise l'islam, on exagère, etc. » Là, non. La réalité, malgré tout, qui est renvoyée par le monde musulman, c'est souvent lié à la violence et à l'assassinat. Aveugle fait par des terroristes. Donc ça, c'est une réalité du monde musulman aujourd'hui. Ensuite, c'est essayer de la mettre en perspective et de ne pas faire des liens avec les musulmans de Suisse s'il n'y en a pas. Donc il y a une information internationale qui est là, et là, c'est une information. Il faut la traiter, essayer de l'analyser, et ensuite essayer de faire la part des choses. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Parce que souvent, les musulmans qui sont en Suisse ont l'impression de devoir se justifier par rapport à des agissements d'un Kazakh, d'un Kirghiz, d'un Tchétchène ou d'un Cachemiri, alors qu'il n'a rien à voir avec ces gens-là. Est-ce qu'on a demandé à des chrétiens de Genève de prendre position par rapport aux agissements de Pinochet quand il était au pouvoir au Chili ? Ça n'avait rien à voir, ils ne se sentaient pas concernés. Donc d'admettre que des musulmans n'ont pas forcément à se sentir concernés par ce qui se fait à l'autre bout du monde au nom de, par des individus peut-être un petit peu dérangés, au nom d'une religion qui est aussi la leur, mais qu'ils ne vivent pas de la même façon. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais de nouveau, et l'idée de demain, ça va être quoi, d'aujourd'hui, demain, ça va être d'obliger tous les intervenants à se mettre dans la position de l'autre, de dire aux musulmans, arrêtez de vous mettre en position de victime. Il y a peut-être une logique médiatique, mais il y a également des journalistes, et de plus en plus, qui veulent comprendre et qui vous laissent un espace pour vous exprimer. Utilisez ces espaces. Mmh. Et de dire aux journalistes d'essayer de, c'est pas de s'auto-censurer ou de ne pas relayer une information, mais c'est de réfléchir à l'impact de cette information et est-ce que c'est vraiment une information qui va donner quelque chose de plus ou au contraire attiser une tension déjà présente. Quel est l'objectif de ce qu'on va faire ?
C'était Stéphane Lathion qui est donc en train de donner une conférence en ce moment même à la Maison de la Communication à Lausanne sur l'islam dans nos médias. Cause, vous, votre sujet, c'est le pape dans les médias, si on veut simplifier. Est-ce qu'il y a des analogies entre les deux situations ?
Ben, là, c'est en écoutant d'une part le premier reportage que vous faisiez et puis ce que disait cette personne, je pensais à une émission qui va bientôt être diffusée, qui est Les Infiltrés, dans lequel un journaliste est allé s'infiltrer dans des milieux intégristes catholiques. Là aussi, de la même manière, on peut, oui, parce que ça fera de l'info, on peut aller voir les intégristes catholiques, mais il faudrait quand même voir un peu ce que représentent ces personnes-là parmi l'ensemble de la communauté catholique française. Mm-hmm.
En attendant, ça privilégier les extrêmes. C'est ça que vous reprochez.
Oui, c'est aussi une part de notre démarche. Vous aurez noté quand même que près du tiers des signataires initiaux de l'appel sont journalistes. On n'est pas dans une dénonciation effrénée des journalistes. On avait créé un site qui s'appelle sacristain.fr dans l'idée justement de donner un peu plus de voix à des catholiques normaux, des catholiques lambda. On n'est ni des progressistes contestataires, ni des intégristes. Nous sommes les catholiques que vous trouverez dans une paroisse. Ceux-là, on les entend beaucoup moins parce qu'ils intéressent moins.
Je vous en prie.
Oui, vous avez aussi l'Avis qui a fait son numéro actuel sur
le magazine,
le catholicisme dans le monde. Oui, le magazine l'Avis. Et effectivement, on voit aussi que le catholicisme, quand c'est un évêque catholique qui paye de sa personne et qui risque sa vie pour défendre les sans-terre au Brésil ou pour défendre la population en Amazonie, ça intéresse périodiquement, mais ça intéresse beaucoup moins, alors que c'est quand même une réalité forte de la religion catholique. Vous avez énormément de catholiques présents à travers le monde qui mettent leur vie en péril pour aider les autres. Et ça, ce sont des éléments qui manifestement intéressent peu quand on veut parler. Il y a aussi une faute de l'Église catholique et une communication parfois déplorable. Mais quand on veut parler de l'Église catholique, on ne nous parle plus que de la morale sexuelle. On n'est quand même pas réduit à des questions sexuelles. Il y a quand même les catholiques ont autre chose à dire.
Alors, un contre-exemple à cette focalisation un peu négative sur l'Église catholique, c'est la popularité médiatique d'une figure religieuse qui est d'ailleurs souvent en visite en Suisse comme en France, c'est le Dalai Lama, le chef spirituel et politique tibétain. Alors, comment expliquer cette complaisance, peut-être, dont il bénéficie? Parfois, on entend une voix critique, mais elle est vite noyée dans le courant. Je vous propose d'écouter maintenant l'avis de Jean-Marc Falcon-Bello. Il est journaliste sur Espace 2 et traducteur de tibétain. Ça fait près de 30 ans qu'il étudie la réalité politique et culturelle tibétaine. Je lui ai demandé ce qui, selon lui, explique cet engouement médiatique pour le Dalai Lama.
On a besoin de l'image, on a besoin de l'icône qu'il représente. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la consommation, où une attente se développe et donc d'autres fournissent ce que l'on attend. On appelle ça un objet consommable, en l'occurrence un objet médiatique, ce qui fait qu'on va gommer toute la complexité du personnage, sa dimension politique par exemple, ses échecs répétés dans sa lutte pour l'indépendance, voire l'autonomie du Tibet, au profit eh bien, de quelque chose de lisse qui plaît à tout le monde et qui ne dérange personne.
On voyait notamment toutes sortes de reportages là, à l'occasion de la visite qu'il vient de faire en Suisse, où vraiment on le présente sous un aspect souriant, et on oublie effectivement un peu de creuser sa fonction et son rôle dans l'histoire du Tibet.
Complètement. Mais d'ailleurs, c'est le problème peut-être de l'exercice médiatique. C'est-à-dire qu'on évacue la complexité, ce qui fait qu'on ne se rend pas compte qu'il y a des contradicteurs. On utilise des termes qui recouvrent des tas de réalités sans réfléchir au sens de ces termes. Quand on dit par exemple chef spirituel de tous les Tibétains, c'est une erreur de fait. Que ce soit un personnage reconnu, c'est une évidence, mais dire que c'est une autorité spirituelle pour tous les Tibétains, un peu à l'image du pape, hein, il y a des transpositions. Forcément, on part du connu pour imposer ce même connu à d'autres, et puis du coup, on ne se rend pas compte de la réalité dont on parle. Par exemple, ça m'a frappé, dans le dernier numéro d'Animal, on parle là du Karmapa Ogen Tinley, qui en plus, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette question, mais est présenté comme l'héritier du Dalai Lama. Alors tout à coup, attendez voir, héritier du Dalai Lama. Quand il s'agit du Dalai Lama, on parle d'un système qui n'est pas forcément à défendre, mais qui est un système où se mêle le religieux et le politique, avec un transfert du pouvoir de réincarnation en réincarnation. Alors tout à coup, héritier, de plus, qui met en jeu un personnage hautement contesté, qui a été reconnu par le gouvernement chinois. On se dit, mais quel est le jeu du Dalai Lama à vouloir utiliser un personnage qui est chef spirituel normalement d'une autre école, mais controversé du fait de cette reconnaissance par les Chinois? Donc, quel est le jeu politique du Dalai Lama? Finalement, toutes ces questions justement qui ont trait à sa dimension politique, ne sont pas posées, parce que, encore une fois, je pense qu'on préfère faire l'image facilement consommable.
Oui, mais justement, facilement consommable, alors que ce que vous décrivez est déjà beaucoup plus complexe.
Bien sûr.
Et par conséquent, quelle est la part, selon vous, de la simplification nécessaire?
C'est une vaste question. Comment dire les choses d'une manière très simple pour traduire des situations très complexes? Peut-être qu'il faut quand même, malgré tout, faire l'effort d'appeler un chat un chat. C'est-à-dire, quand on parle du Dalai Lama, il faut dire que aussi, c'est un dirigeant politique, en l'occurrence, qu'il a donc une fonction politique, et du fait de sa fonction politique, il est soumis, comme n'importe quel dirigeant politique, à la question. Alors ça, c'est un jeu que les médias ne veulent pas jouer. On préfère ne pas l'interroger sur ces questions. C'est-à-dire, on l'interroge, mais on le laisse dans son rôle d'icône qui défend le peuple tibétain assiégé par les méchants chinois. Et on reste dans la simplification.
Mais on n'ose pas le critiquer. Voilà.
Non, on n'ose pas, parce que j'irai même plus loin, je pense que c'est un bon client. Alors, bien sûr, ça va faire sauter sur leur siège nombreuses personnes qui peut-être nous entendent, mais il n'empêche que si on se prend 5 minutes et que l'on analyse vraiment le phénomène, on se rend compte qu'il est un bon client. Il fait vendre, c'est un personnage sympathique, il est habillé dans sa robe rouge, il rigole tout le temps, il dérange personne. Simplement, politiquement, c'est tout de même intéressant de noter qu'aucune chancellerie de par le monde n'a soutenu son effort politique, par exemple, ou sa revendication politique. Aucune. Aucune ne se risquerait de prendre une position pro-tibétaine qui fâcherait la Chine, par exemple. S'agit-il de la prendre? C'est une autre question. Mais Il s'agit d'observer que le jeu pervers de l'image médiatique fait que l'on se sert de l'image. C'est là le bon client. Et puis, bien sûr, qu'on ne va pas prendre par ailleurs un risque politique. Donc, un homme d'État, par exemple, pourra éventuellement, s'il a un grand courage, s'afficher avec le Dalai Lama sur la photo, dimension médiatique, mais ne prendra pas les positions politiques qui, elles, seraient peut-être déterminantes et fâcheraient.
Et alors, si les médias ne questionnent pas un peu plus ces actions, pour vous, c'est surtout en raison de ce cliché qu'il faut préserver parce que ça fait vendre, c'est pas tant à cause d'une incompétence ?
Mais peut-être que les deux se confondent. C'est une incompétence dans le sens où il y a des tas de faits historiques qui peuvent être repris. Faut-il encore avoir le temps et l'envie de se pencher sur les documents ? Ça veut dire aller au-delà de l'image, ça veut dire rentrer dans l'histoire tibétaine qui ne date pas là d'aujourd'hui mais qui commence il y a de nombreux siècles. Ça veut dire se rendre compte qu'il y a des détracteurs qui disent mais halte à ce régime qui confond spiritualité et politique. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on écorne l'image. Et je pense qu'à un moment donné, on pourrait presque dire que tous sont complices, les médias aussi. C'est-à-dire complices parce que finalement, il y a une espèce de d'entendement tacite autour de on communie, on pourrait dire, à travers l'image, et puis aussi ça fait du bien à un Occident qui se sent un peu perdu, et tout à coup, on a trouvé une icône qui éclaire. On se rend compte aussi qu'il y a une récupération là du discours écologique, parce que finalement ça va dans le sens du poil, donc ça donne un peu l'impression que tout ce qui va dans le sens du poil est bon à prendre. Alors pourquoi vouloir toujours aller dans le sens du poil? Parce qu'on veut vendre.
Jean-Marc Falcombello, notre confrère, à propos de l'image positive du Dalai Lama. Cause, on revient avec vous sur le pape. Est-ce que Benoît XVI souffre, lui, d'avoir été considéré comme un mauvais client, pour prendre l'antithèse du bon client ?
Je retiens qu'il devrait rire plus souvent, en tout cas le faire devant les journalistes. Mais c'est vrai que de toute façon, Benoît XVI est arrivé après avoir eu un rôle de gardien de la foi, entre guillemets. Pendant des années, il était donc à la Congrégation pour la doctrine de la foi. C'est là que le terme de Panzer cardinal lui a collé à la peau. L'Église catholique n'a déjà peut-être pas la meilleure image. Il est sûr que lui est arrivé avec une réputation qui n'allait pas lui faciliter la tâche.
Alors Jean-Paul II, lui, avait réussi à avoir quand même une image plutôt positive, disons contrastée, mais plutôt positive. Est-ce que c'est possible pour l'Église catholique de renverser la tendance pour Benoît XVI ?
Pour Benoît XVI, je vous avoue que je ne serais pas très optimiste là-dessus. Je pense qu'il a sa personnalité. C'est quelqu'un, même s'il est en contraste total avec le terme de Panzer cardinal, c'est quelqu'un d'une certaine douceur et d'une certaine timidité. Il n'est pas une personnalité médiatique et il n'est pas quelqu'un qui aura un geste très charismatique dans une réunion comme les JMJ.
Les jeunesses mondiales.
De la jeunesse, les journées mondiales de la jeunesse, effectivement. Oui. Mais à côté de ça, ce qui est tragique, c'est que, notamment sur ces questions de la pédophilie, il a fait, je n'aime pas critiquer Jean-Paul II, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mais il a fait beaucoup plus que Jean-Paul II. Et à cause de son image, à cause de cela, du fait que, aussi, que ce soit un Allemand, à cause de ce genre de choses, cela occulte complètement la réalité de son action.
Et il faudrait que les médias aillent au-delà de l'image, au fond, c'est ça votre souhait ?
Oui, effectivement, je pense que ça n'est pas hors de portée des journalistes de dépasser les icônes et de dépasser les apparences.
Merci beaucoup, Cause, de nous avoir rejoints ce matin dans mes dialogues. Je rappelle que votre appel à la vérité figure sur notre site en lien. Bonne journée à vous.
Merci.